Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Dominique Arpa.
Fait que je me suis dit, cette journée-là, je pourrais jamais avoir plus peur que ce que j'ai vécu dans le bureau du médecin lorsqu'elle m'a dit que j'avais un cancer puis que la masse était grosse comme un pamplemousse sur mon rein.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
98.5 Montréal. Voici Paul Arcand.
Alors, je vous l'ai mentionné à quelques reprises. D'ici le 14 juin, nous aurons des invités qui vont se joindre à l'émission de temps en temps pour ce qu'on appelle du contre-emploi. On a eu Pierre Fitzgibbon, critique de théâtre, quand même, pour le faire. Gabriel Nadeau-Dubois qui était là pour commenter les sports. Et ce matin, c'est un commissaire. Donc, c'est plus une commission, c'est un forum. C'est une table ronde. Ricardo est avec nous. Bonjour.
Bonjour à vous autres.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça fait plaisir. Il y a une grande différence entre vous écouter dans notre auto, comme des centaines de millions de personnes, en lisant ces journaux, en étant d'accord, pas d'accord, et être ici pour le faire.
C'est très bien. Mais un homme qui s'est préparé, il faut le dire, là. Oui. Il a mis quand même du temps. Le sujet ce matin, c'est l'absentéisme en classe. On a vu les chiffres hier. Faut faire attention, c'est pour une période très précise. C'est peut-être une combinaison avec Pâques, là. Mais grosso modo, presque 10% des élèves ne sont pas en classe pour toutes sortes de raisons. Ricardo, c'est toi qui commences.
Moi, je commencerais en disant que l'école, c'est pas les enfants ou les parents qui décident si les enfants y vont. C'est une loi. C'est une obligation pour tous, peu importe ta langue, ta façon de penser, ta religion, jusqu'à 16 ans, tu vas à l'école, aime ça, aime pas ça. C'est la base. Ensuite de ça, bon, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des absentéismes qui peuvent être justifiés. La maladie, par exemple. Il y a des forces majeures familiales qui sont là. Mais c'est le rôle du parent, d'abord et avant tout, de justifier l'absence de cet enfant-là. Tu sais, on dit, bon, un sondage, on peut faire dire ce qu'on veut pas mal à ça. Si la moyenne, habituellement, c'est de 3 à 7 %. Bon, de 7 à 10, on parle de 3 à 5 % de plus. C'est quand même pas la fin du monde, mais c'est quand même beaucoup d'enfants. Tu sais, je veux dire, on peut pas ne pas en tenir compte. Moi, je me souviens, mes enfants, à traverser la rue, moi, ils étaient chanceux, là, ils allaient à l'école à Chambly, l'autre côté de la rue, puis si à 9h30, une de mes filles était pas là, ça sonnait à la maison. Là. Elle est où? Puis là, je filais mal, parce que c'est ma job à moi d'appeler, dire « ma fille n'est pas là pour telle raison ». D'ailleurs, ce serait intéressant de compiler ces raisons-là. Pourquoi les enfants ne sont pas à l'école? On n'a pas de chiffres là-dessus. Hein? Il y en a qui a beaucoup les tableaux de bord en ce moment au gouvernement. Ben, ce serait le fun d'avoir, tu sais, je veux dire, sont-ils tous en vacances ou ben ils sont malades? Pourquoi ils ne sont pas là? Alors ça, j'aimerais ça le savoir. Tu sais, à quelque part, j'ai décidé de faire un sondage comme pas scientifique. Parce que moi, il me reste deux enfants aux études. Dans quelques années, cette période-là, pour moi, ça va être derrière. Et j'ai dit, bon, ben, je vais regarder au bureau. Moi, j'ai des enfants qui de tout groupe d'âge qui sont à l'école. Et beaucoup de parents m'ont dit, regarde, on a un meilleur culpa à faire parce que malgré le fait qu'on dise que rien n'est plus important que l'école, j'envoie des messages contradictoires à mes enfants. Je leur dis que l'école, c'est super important, mais moi, c'est pas mal cher, les billets d'avion pour aller en vacances. On va partir 3 jours avant, on va revenir 3 jours après. Une autre affaire qu'ils m'ont dit, tu sais, dans le temps, là, quand on travaillait pour vrai au bureau, pas qu'on travaillait pour vrai, genre, on travaille plus, mais quand on travaillait à distance, au bureau, quand le petit ou la petite filait pas, j'essayais d'analyser ça. Je prends-tu un congé de maladie ou pas, envoyé à l'école. Là, j'étais à la maison, à moitié habillé. Je la garde à la maison. Je me casserais pas la tête. Tu sais, je veux dire, je prendrai pas le risque. Puis là, tu te déculpabilises. T'as coup, il fait de la fièvre. Je veux pas qu'il contamine les autres. Tout ça est valable, mais c'est ça qui arrive.
Garde-toi des arguments un peu. Oui.
Alors, j'en ai une trollée.
Mais faut que tu t'en gardes. Bon, ouais. Luc, vas-y donc.
Ben, dans la classe de Madame Lise, d'un film de 2006, il y avait un phénomène où, dans des communautés techniques, il parlait des familles qui étaient dispersées sur le territoire Toronto, Montréal, Ottawa, puis il disait, elle, on la perd 2 mois par année, elle s'en va à Toronto, elle s'en va dans sa famille. Il y a les fêtes religieuses aussi, qui ne sont pas inscrites dans le calendrier scolaire. Fait que musulmans, sikhs et compagnie, des fêtes qui sont aussi importantes à leurs yeux que Noël l'est pour nous, là, la fin du Ramadan, par exemple, Al-Ferit. Mais bon, il va y avoir des absences. Mais quand j'ai regardé les comparaisons avec les pays qui ont à peu près la même proportion d'immigrants, ils ont moins d'absences. Donc, c'est pas ça. Ça peut justifier une partie des absences. J'aimerais m'adresser aussi aux orthodontistes du Québec.
Les heures d'ouverture, c'est
ah
ça?
Ah ben, Simonac. Ben oui. Hey, ça ferme à 4 heures. Les orthodontistes du Québec, on s'entend que les gens en CHSLD se font moins souvent ranger les dents que les enfants à l'école. Mmh. Ça ferme à 4 heures. Ce que ça dit à tous les parents du Québec, sortez-là de la classe. Sortez-là de la classe. Viens à l'orthodontiste après l'école. Puis il faut qu'il y aille souvent. Mais il y a ça. Ah, le sport. Ton fils a marqué un but en désavantage numérique. Faut qu'il y ait au camp d'entraînement de printemps, là, puis au power skating, puis à ci, puis à ça, puis au tournoi. Donc, il y a tout le temps une bonne raison pour manquer l'école, mais se divise en gros en deux. Des gens qui sont défavorisés, des gens qui sont favorisés, puis c'est pas du tout la même dynamique. Les défavorisés, Ricardo, tu disais, le jeune est malade. Est-ce que la mère qui en a trois autres à la maison qui accorde moins d'importance à ça va s'assurer que l'enfant aille à l'école?
Et généralement, les écoles sont très conciliantes. Tu sais, je veux dire, quand tu le sais, le petit, moi, mon filleul a été très malade il y a 2 ans, puis l'école a vraiment fait ce qu'il pouvait pour qu'il puisse ne pas perdre son année, récupérer ça. Tu sais, je veux dire, il y a des raisons qui sont majeures, qui sont là, économiques. Mais ça, nos grands-parents se sont saignés parce qu'ils étaient pauvres et ils voulaient avoir le droit d'aller à l'école. Ils voulaient qu'on puisse y aller, peu importe notre statut économique.
Et nos parents sont pognés 115 quand ils vont au chalet le vendredi.
Non, mais nous, on est plus riches qu'on était. Mais on a été une société aussi pauvre émotionnellement, sans lien. Et ça a sûrement une influence sur notre perception de l'école et son importance.
Nathalie.
Ben, le taux d'absentéisme révélé par la presse, tu dis, Paul, c'est peut-être pas une tendance. N'empêche que dans d'autres juridictions, ça semble être une tendance. En Angleterre, entre 2019 et 2023, le taux d'absence dans les écoles est passé de 4,5% à 7,5%.
Ouais.
Alors ça, c'est une réalité, parce qu'au-delà de tous les arguments que vous avez évoqués, il y a un autre argument, une autre réalité qui touche nos jeunes et qui, moi, je trouve extrêmement préoccupante, c'est l'anxiété. Il y a un plus grand nombre de jeunes qui souffrent d'anxiété et il y a un plus grand nombre de jeunes qui souffrent d'anxiété à l'idée d'aller à l'école. Mmh. Alors moi, dans cette donnée, je vois deux signaux. Le premier, c'est on se demande si l'école, c'est encore une priorité. Tu sais, quand t'es rendu, tu fais des compromis pour aller en vacances, pour aller la fin de semaine au chalet dans le Nord. Tu dis, ben, on va partir avec les enfants à midi plutôt qu'à 3 heures pour être pris dans le trafic. Je pense qu'on commence à avoir un problème de société. Deuxièmement, le fait que plus de jeunes stressent à l'idée d'aller à l'école, ben, là, ça envoie un message à tout le système d'éducation au Québec, le système public, comment l'école peut mieux s'adapter à cette anxiété qui s'exprime de plus grande façon. Oui.
Déjà, les psychologues et les spécialistes nous disaient ça va être une catastrophe pour ces enfants-là. Faut mettre du cash, faut mettre des spécialistes, qu'est-ce qu'on a fait en réalité, tu sais? Cette anxiété-là va pas disparaître, ça va augmenter. Puis encore une fois, tu vois tes parents qui veulent pas y aller au bureau. Toi, t'es obligé d'y aller. On commande du Uber, on sort plus. Hey, même mon voisin me disait hier, parce que je suis allé cogner à la porte, il y a des enfants, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, mon chien veut plus voir de monde depuis la pandémie. Fait que, imagine-toi, les animaux de compagnie se sont désocialisés de voir d'autres. Imagine-toi un enfant qui est sensible et intelligent. Oui. Ce que ça provoque sur son comportement, c'est énorme. C'est énorme. Mais en même temps, je lisais dans la presse hier le professeur Gay qui disait qu'il y a des professeurs qui ont beaucoup d'enthousiasme, qui ont des cours qui intéressent les enfants. Ben d'accord, puis on rêve tous d'avoir un prof comme ça. Mais au-delà de ça, si nous autres, un matin, on nous demandait d'aller dans une école où il n'y a pas d'air, pas de fenêtre, pas de place pour manger, pas de place pour boire de l'eau, pas un arbre dans le cours d'école. Je dis, on a-tu le goût d'y aller, là? Non. Il y a une partie, puis ça fait 6 ans que je m'implique, puis que je jase avec autant des syndicats que des professeurs, que des services de garde dévalorisés. Hein? Et je dis quand même eux autres qui accueillent nos enfants matin, midi et soir. On fait quoi pour ce monde-là? On leur offre quoi comme local, comme espace de vie? Cet espace de vie-là, s'il est favorable à l'éducation, t'as le goût de te lever pour aller à l'école. Surtout si t'as pas une scène, t'as des problèmes dans ta famille, tu sais qu'à l'école, tu vas peut-être avoir à déjeuner,
exact.
Tu vas avoir des amis, tu vas avoir un lieu qui est favorable à ton épanouissement. Là, c'est pas le cas.
Est-ce que ça se peut aussi que l'éducation elle-même, pas juste l'école, l'éducation soit dévalorisée? Depuis quelques années, un gars qui a une bonne compagnie de construction, il fait bien plus d'argent qu'une personne qui a fini son bac puis qui travaille pour le gouvernement du Québec. Parce que à 60-70 000 $ par année, là, tu ne peux plus acheter de maison au Québec, crise du logement, OK? Fait que tu vas t'engager dans des études, puis que tu vas mener à terme, puis tu vas faire un processus de sélection, tu vas t'engager à 70 000, 80, 90 000 $. Tu pars en construction, tu pars en compagnie de construction, de métier et même de coiffure, puis tu vas faire sans doute beaucoup plus d'argent.
Je suis pas sûr, moi, que c'est juste une question d'argent. Moi, je pense qu'à quelque part, c'est la valorisation de l'éducation.
Exactement.
En tant que telle. D'entendre des gens dénigrer la science, la médecine. On l'a vu depuis la pandémie. On dénigre ce qui a pris des millénaires à construire. Là, on a des doutes sur la façon dont on enseigne, des doutes sur les médicaments, des doutes sur les médecins. On vit dans une espèce de doute. Certains vont dire ça, c'est un problème de riches puis d'occidentaux. Mais je veux dire, il y a effectivement un problème. Je veux dire,
il y a un problème. Et d'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, dit, il a interpellé les parents par rapport à cette donnée, à cette nouvelle donnée sur l'absentéisme, en disant, les parents, vous avez un rôle à jouer. Moi, je vais lancer un pavé dans la mare. En France, en Angleterre, on impose des amendes pour les parents qui sortent les enfants des classes lors de périodes non autorisées. C'est-à-dire, c'est pas les vacances prévues au calendrier scolaire. Alors, écoute, on t'impose une amende. Ça peut aller en Angleterre de 60 livres à, ça peut aller à plus de 2000 livres. En France, 135 euros. Mais en France, on a une sanction prévue dans la loi, mais on la met rarement en application. En Angleterre, il y a un couple qui a eu une pénalité importante de 550 euros pour avoir été parti deux fois en 2018 et en 2022 avec leurs enfants à Walt Disney. Au Québec, là, je lance ça comme proposition, là, pour encadrer davantage, pour éviter que les parents partent en voyage avec les enfants hors de la période de relâche. Est-ce qu'on serait prêt comme société à dire, envoyer un message là, vraiment
moi,
fort,
je te dirais,
l'école c'est une priorité à tel point qu'on est prêt à imposer une pénalité aux parents qui ne suivent pas le calendrier scolaire?
Moi, je te dirais, aller à Walt Disney, c'est déjà une pénalité. Mais en plus, je suis d'accord, avec l'idée d'en ajouter une autre, je te donne raison.
Ben, tu vois, moi, dans mon sondage neuroscientifique, j'ai dit, OK, ce serait quoi vos solutions?
Oui.
Étonnamment, dans un groupe très près de moi, ça s'est comme divisé en deux. Tu as la gang qui pense que c'est toujours l'école qui doit régler le problème. Moi, le parent, j'en ai déjà assez ses épaules. Là. Mmh. J'ai besoin de mes vacances. Et t'as l'autre gang qui... Et j'essaie de regarder ça, qui sont un peu plus âgés. Hein, les enfants sont plus vieux, l'école est presque finie. Qui disent, tu sais que ta job de parent, là, c'est deux... En fait, quand tu parles à tes enfants, tu dis, toi, là, le petit, là, m'a dit, c'est quoi ta job? Tu vas à l'école, puis t'es poli, t'es respectueux avec ta famille, puis ton ensemble. Le reste, là, ton père et ta mère, nous autres, là, on s'occupe de tout. On va torcher probablement plus longtemps qu'on peut l'imaginer en ce moment. OK? Bon, on s'en occupe. Toi, tu vas à l'école.
Ouais.
C'est un principe de base. Si tu y vas pas, moi, mettons, demain matin, je rentre pas. 3, 4, 5 jours. Ben, je vais avoir une note à mon dossier. À la limite, je vais me faire virer. Ben, si tu te présentes pas à l'école, ben, ça se peut que tu aies un échec.
Mais il y a une question, par exemple.
Tu vas doubler ton année.
Oui.
Une question qu'on peut poser. Est-ce que l'environnement de l'école et les méthodes d'enseignement à l'école sont adaptés à tout le monde. Autrement dit, il y avait une spécialiste qui est venue ici il y a quelques mois à peine, là, où elle racontait, c'est fait là, pour un corridor bien précis. Si t'es un enfant, mettons, plus créatif, un peu plus, je sais pas moi, imaginatif, ça se peut que tu déranges dans la classe. Est-ce que si t'es quelqu'un, un gars plus manuel, peut-être que tel genre d'approche... Autrement dit, je comprends qu'on peut pas faire du sur-mesure pour tout le monde, mais est-ce que, puis je regarde avec les gars, puis le taux de décrochage... Est-ce que c'est pas une raison aussi, un gars de 14-15 ans, là, il peut se trouver une job au salaire minimum, assez, et même plus, puis il va aller à l'école 3 jours par semaine?
Moi, je te dirais que l'environnement physique, je le vois là, avec les labs là, qu'on a ouverts, puis les nouvelles écoles que le gouvernement ouvre, a une influence directe sur ça, pour garder les jeunes. Les profs, ils sont déjà créatifs, OK? Je veux dire, tu peux pas enseigner, j'en connais, là, tu sais, nous autres, là, à Chambly, on reste à côté du fort. C'est le cours d'histoire, OK? C'est le cœur d'une histoire canadienne. Ils peuvent pas sortir dehors. Ils sont pas organisés pour ça. Puis ceux qui le font, ben, je veux dire, ils font quasiment le risque et péril. À Montréal, c'est la même affaire. Un prof qui veut faire les choses différemment, si tu lui donnes l'espace pour le faire, il va le faire. À chaque école où on a mis des tableaux extérieurs, les profs, ils sortent. Puis ils disent, OK, venez-vous-en. Puis c'est libre. À quelque part, ils font un peu de liberté. Chaque personne a sa façon de le faire. L'important, c'est le cursus. À partir du moment où on suit le même cursus tout le monde, c'est là qu'on s'en va. C'est facile de mettre ça sur le dos des profs. T'sais, moi, ou de l'école en général. Moi, j'ai vu des centres de services scolaires, puis on aime ça, le taper sa tête. Extraordinaire. Pour faire des trucs, tu dis, ben voyons, ça se peut-tu cultiver 2000 kilos de légumes à l'école avec des personnes âgées? Oui, ça se peut. Mais il faut donner un lieu physique pour que le reste puisse s'épanouir. Puis les profs, ils vont s'organiser avec la façon dont on enseigne. Ils sont spécialisés là-dedans. Puis, je veux dire, mais à la base, ça te prend un lieu qui est rassembleur et que tu as le goût de te lever puis d'y aller le matin pour tout le monde. Le concierge, le directeur de l'école, les enfants, tout le monde.
Mais c'est tellement une évidence que tu dis. Mais ça a pris la mobilisation du Lab École pour ce...
Mais ça, je veux faire un documentaire là-dessus parce que c'est un combat énorme contre la bureaucratie, contre des façons de faire. Comment on peut faire... Moi, ce que je sais, là, c'est que on a-tu les moyens de mettre tous les milliards que ça prend dans l'éducation? Peut-être pas. Mais on n'a pas les moyens de pas les mettre.
2,7 milliards pour un pont sur l'île d'Orléans.
Bon, ben, regarde,
on peut pas en même temps avoir des Lab École.
Aujourd'hui, Luc, là, ça, tu me rappelleras pour d'autres choses. Mais ce que je sais, c'est que si on ne met pas ce que ça prend, peu importe ce que ça va coûter dans l'éducation, c'est un suicide collectif qu'on se fait. On est en train d'assassiner notre futur si on ne met pas l'argent que ça prend en ce moment. Pas dans 6 mois, dans 2 ans. Là. Ces enfants-là, ils vivent des détresses énormes. Les professeurs en vivent par la bande aussi. Les enfants sont sont l'image de ce qui se passe à la maison aussi. Tout ça, ça se tient ensemble. Fait que on n'est pas là pour tirer des roches à personne. Mettez le maudit cash dans les écoles. Puis un jour, on n'entendra plus le ministre de la Santé parler d'argent. On va entendre le ministre parler d'éducation parce qu'il y a des pays comme en Scandinavie, les budgets sont inversés. Le budget de santé est complètement à l'opposé du nôtre. C'est-à-dire que l'argent va en éducation. Plus t'es éduqué, moins t'es malade. Meilleur ta job va être, moins tu vas te séparer, plus tu vas prendre ta retraite âgée, plus tu vas être épanoui, moins tu coûtes cher à la société, tu rapportes de l'argent. Peu importe que tu aies un DEP qui te rende heureux en pâtisserie ou en menuiserie ou que tu sois un super chirurgien. Mais l'éducation, c'est la base. Puis si on ne fait pas ça là, on va redevenir ce qu'on était près du Plessis, des petits morons qui ont des rêves puis qui sont pas capables de les accomplir.
Wow!
Oui,
non,
bravo,
mais écoute,
Ricardo,
quand on fait la vague,
bravo,
je veux dire, c'est incroyable comme... Non, mais je veux dire, Ricardo, si tu doutais de tes
capacités...
Matin.
Est-ce que vous sentez capable d'accoter ça? Ou
non, pas là-dessus,
non. Non, ça vient du cœur. Honnêtement, wow, toute une finale.
Mais l'éducation, là, ça vaut la peine de monter aux barricades. Puis tu sais, la prochaine élection, là, c'est là-dessus qu'elle devrait être. Tout le reste va suivre. Mais si on ne met pas toutes nos énergies derrière, chaque personne qui a un lien avec nos enfants dans l'école. Tu sais, puis quand je parlais des services de garde qui ont été pendant des années le parent pauvre puis dévalorisé, ils accueillent matin, midi, soir nos enfants. Puis si ton enfant est bien accueilli puis qu'il a mangé un peu, il va arriver dans la classe, il va être beaucoup plus ouvert à la réception d'un gars ou d'une fille qui a préparé un cours puis qui a le goût de le donner.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Est-ce que Brigitte est contente de ta performance?
Elle est en train de m'écrire, je pense.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec José Boudreau.
Je regarde jamais en arrière, c'est fini, on va faire avec ça. Tu dis, hein, maman maintenant a moins mots qu'avant. Je pense que tout le monde était content.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
98.5 Montréal.
Alors, le sujet pour les commissaires ce matin, deux sondages un peu différents. Il y a des points communs, mais il y a quand même des distinctions importantes. Un qui dit que la CAQ est tombée troisième. Le Léger nous dit non, ils sont deuxième. Les libéraux sont surévalués. Est-ce que François Legault remonte un peu? Est-ce que la CAQ sort du sous-sol? Est-ce qu'il sera capable, justement, de rattraper tout ça d'ici 2 ans, Nathalie?
Bien, je doute, moi, qu'il soit capable de rattraper ça d'ici 2 ans. Pourquoi? Parce que, d'un sondage à l'autre, depuis plusieurs mois déjà, il y a une tendance lourde qui s'exprime dans les résultats qui sont révélés dans les intentions de vote. Et là, la CAQ se retrouve, on parle d'intention de vote de 20 à 24 % selon que ce soit chez Palace Data ou chez Léger. C'est très bas. Palazzetta met la CAQ en troisième position, Léger en deuxième. Mais peu importe, ce qui compte, c'est la tendance. Et là, dans ce cas-ci, la tendance parle d'elle-même. On dit qu'en politique, tout est possible, mais là, ça va prendre un miracle pour permettre à M. Legault de se relever, de remonter du troisième sous-sol pour émerger. Pour toutes sortes de raisons. Et moi, je crois, on en a déjà parlé ensemble, est-ce que les carottes sont cuites? Moi, je crois que oui, maintenant. Parce qu'on est toujours prudent lorsqu'on fait ce genre d'affirmation, compte tenu de tout ce qui peut se produire en politique. Mais les électeurs ont dit à la CAQ, on vous a essayé, on vous a aimé, mais là, on est fatigué. Puis le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, la lucidité, le diagnostic qu'il pose sur la société québécoise, plaît à beaucoup de Québécois, d'électeurs.
Je sais pas si c'était Weber qui disait qu'il y a une différence entre les opinions et les intérêts. Donc, tu peux avoir une opinion, mais quand c'est tes intérêts qui sont touchés, tes opinions deviennent très fortes. Et les intérêts des Québécois ont été touchés par l'inflation, par la crise du logement, et ils sont fâchés. Donc, ça, c'est le premier point. Moi, je pense pas, comme Nathalie, je pense pas que la CAQ va se relever à cause de ça. Là, ils auraient atteint leur plancher. Peut-être qu'ils vont varier 2-3 %. Ils ont atteint leur plancher. Moi, je pense que le PQ a aussi atteint son sommet à 32-34 %, sous le sommet, sous les opinions souverainistes. L'opinion souverainiste, à peu près à 36 %. Et par contre, tout dépend des libéraux. Est-ce que les libéraux vont vraiment remonter? Ben, si Plamondon veut que les libéraux remontent, qu'ils fassent une autre semaine comme la semaine passée, qu'ils refassent des déclarations sur les Acadiens puis sur la guerre de la défaite de 1760. Et oui, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que tous les anglophones ont viré rapidement, sont passés des conservateurs ou de ne vote pas, ne sait pas, à libéral. Donc, le vote libéral est boosté dans le sondage de Palazzetta. Et ça, c'est un signe annonciateur qui ne restera pas chez les anglophones, je ne pense pas. Les Québécois, en règle générale, même les Québécois souverainistes, qui ont vu dans Plamondon ce que Nathalie disait, c'est-à-dire quelqu'un qui est cohérent, moderne, travaillant, discret, vont revoir en lui les anciens péquistes qu'on était contents de voir partir parce qu'ils avaient fait leur temps.
Moi, je crois que, Luc, c'est pas le temps pour le PLQ là, de sortir les confettis. Là. Il est trop tôt. D'ailleurs, ouais. On questionne la méthodologie de Palazzetta parce qu'on sait, écoute, on n'en revient pas à quel point le PLQ a fait une remontée. Tu dis, c'est presque pas possible. Et, le nouveau chef n'est pas encore arrivé. Il faut dire, par contre, que Marc Tanguay a une bonne... Il fait bien à l'Assemblée nationale. Il y a des sorties percutantes. Mais là où je te donne raison, Luc, c'est le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon qui nous dit un prochain référendum d'ici la fin de la présente décennie. Puis on va la prochaine campagne va porter sur l'enjeu de l'indépendance du Québec. Alors, il se passe quoi dans ce temps-là? Fait que l'opinion publique va rapidement se polariser.
Oui.
Dans le camp du oui, dans le camp du non. Et ça, c'est avantageux pour le Parti libéral, évidemment, ouais. Qui incarne...
Et désavantageux pour Québec solidaire, on l'a vu.
Hein, oui, tout à fait.
Parce que si t'es souverainiste, tu voteras pas pour Québec solidaire. Tu vas voter pour le Parti québécois. Question à vous deux. Est-ce que Plamondon a répété que le référendum serait dans la première année du mandat?
Bien, il l'a dit d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire d'ici 2030.
Oui, OK. Alors, parce que si c'est dans la première année du mandat, c'est un suicide. Parce que...
Ça va être la première année du mandat, parce que la prochaine élection est en 2026.
Bien non, mais c'est un suicide, parce que regarde, tu lis le Parti québécois, ils perdent le référendum, OK? Il leur reste 3 ans à gouverner. Pendant 3 ans, ils vont devoir dire... Ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le Québec est ingouvernable en tant que membre de la Fédération, parce qu'on n'a jamais l'accord de Ottawa, bien, pendant 3 ans, on va gouverner un Québec ingouvernable. C'est leur grande solution, c'est l'indépendance.
Oui, tout à fait.
Si tu perds le référendum dans la première année,
mais ça sera ça.
Après ça, tu as 3 ans à gouverner une province sans plan.
Je comprends. Ce sera un drame, mais c'est comme s'ils jouent le tout pour le tout.
Moi, je dirais.
Oui, toi, Paul Arcand, qu'est-ce que tu dirais?
Que c'est bien, c'est intéressant, là, le débat sur la souveraineté, puis est-ce qu'on veut un parti souverainiste, parce que ça va revampir, repimper le Parti libéral, puis bon, peut-être, là. Mais moi, je regarde 2 choses. La première, cette volonté des Québécois d'avoir du concret, d'avoir des services. On se fait promettre plein de réformes, là, puis une agence de santé, puis un tableau de bord, puis en éducation. Puis ce que Ricardo a décrit, là, c'est la réalité. Puis c'est vrai avec Hydro-Québec, c'est vrai avec l'énergie qu'on va utiliser. C'est vrai aussi avec les infrastructures déficientes, des ponts à 2 milliards, puis bon, toutes ces affaires-là. Là, tu dis, quel est le parti qui va livrer? On a essayé la CAQ. Ils n'ont pas livré encore. Ils nous promettent de livrer, mais ils n'ont pas livré encore. Moi, je pense que, et à cet égard-là, je regarde à Ottawa, Poilievre. Je dis pas que ce qu'il dit, c'est la vérité pure, puis qu'il va être capable. Mais il a compris que les Canadiens sont tannés de Justin Trudeau, qui sont tannés de ce gouvernement qui dépense, qui ouvre les frontières, qui garoche l'argent, puis ils ramènent ça au concret.
Sur le plancher des vaches.
Votre épicerie vous coûte cher, exact. C'est la faute de Justin Trudeau. Les routes sont mal entretenues, c'est la faute de... Ça finit par rentrer, puis il y a 20 points d'avance sur Trudeau.
Tout à fait. Ouais,
mais peut-être qu'il y en a perdu 2-3 hier en disant que les pailles
ben oui,
en plastique... Pour, si vous voulez sauver le Canada, remettons les pailles en plastique.
Oh oui, il lance ça, même une pétition. D'ailleurs, j'ouvre l'émission tantôt là-dessus. Hey, écoute, il veut devenir premier ministre du Canada, le gars. Sauvons les pailles en plastique. Hey, méchant slogan de campagne.
Où est-ce qu'on appelle pour signer?
Non, mais ça devient extrêmement compliqué pour la CAQ de comprendre ce qui ne va pas puis comment elle peut se repositionner. Je vous raconte un épisode vécu en politique devant des sondages catastrophiques. M. Charest dit un jour à ses ministres, là, vous allez faire une liste de toutes les mesures qu'on pourrait adopter qui touchent le quotidien des Québécois. Ça rejoint ce que tu dis. Mmh. Tu sais, des mesures là qui ne coûtent pas nécessairement très cher, mais qui font une différence dans le quotidien. Tu sais, c'est beau, les grands programmes d'infrastructure puis tout ça, là, tu sais, mais au quotidien, là.
Mais tu as vu sur l'immigration, les Québécois disent, si tu nous poses la question, est-ce que le Québec a besoin de tous les pouvoirs, on va te dire oui, mais viens-nous pas nous écœurer avec ça.
Exact.
C'est ça que ça dit,
mais d'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est ce qu'il attend, là. Et puis, je pense pas que ça va changer au cours des prochains sondages. Ils vont dire, hey, sais-tu quoi, Paul Saint-Pierre Plamondon? On te trouve bien correct, on a confiance en toi, on va te donner une chance de devenir premier ministre. Mais au référendum, crois-nous, on va voter non. Il le sait, ça, que c'est ça qui l'attend. Alors,
ben, peut-être. Moi, en tout cas, il y a
un truc sur lequel...
J'aurais, plutôt que de le voir parler des Acadiens, mais je comprends pourquoi il a fait ça. Hein, parce qu'il a voulu dire qu'il y a des étapes historiques dans le Canada où le Québec a perdu de la force. Puis là, on vit une de ces étapes-là. Fait que là, il a référé à deux autres étapes, mais c'était pas une bonne idée. Par contre, ce qu'on vit actuellement, c'est formidable. Il y a une gang qui croit plus dans le fédéralisme canadien, c'est le Parti libéral.
Pourquoi tu dis ça?
Mais parce que ils sont désespérés d'agir sur le logement, sur les déjeuners dans les écoles, sur la santé.
Ah, tu parles
sur
les libéraux de Justin Trudeau.
Les libéraux de Justin Trudeau ne croient pas dans le fédéralisme. Eux, ils veulent être le gouvernement du Québec. Ils veulent être un gouvernement provincial. Fait qu'ils donnent raison. Ils donnent tellement raison à Plamondon. Ils ont réalisé, après quelques années de pouvoir, coudon, on ne peut rien faire. On peut juste s'ostiner sur l'avortement, l'armée. Puis 3-4 affaires qui intéressent pas le monde. Non, on va s'intéresser aux provinces. On va faire le travail des provinces à leur place.
On pourrait dire que leur vision du fédéralisme n'a rien d'asymétrique.
Non, ça c'est vrai.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
Tout ce qu'il faut savoir. 98.5.